RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
François, bonjour.
Salut, comment vas-tu ?
Bien, comme d'habitude.
Eh bien écoute, aujourd'hui journée ensoleillée, bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui le petit prince Calvez du 7e art, je sais que ça va t'énerver. Donc aujourd'hui 22 mars c'est la Sainte Léa, donc on embrasse toutes les Léas qu'on connaît, hein. Donc il y en a une particulièrement qui habite pas très très loin, on lui fait un coucou. Aujourd'hui 22 mars, journée mondiale de l'eau pour l'ONU, c'est la jour du platane, c'est le jour du platane en France, bon, pourquoi j'en sais rien. En 1841, 22 mars, il y a eu la promulgation de la loi interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans, donc elle n'a pas traversé les frontières parce qu'en Chine ils attendent toujours. Et nous souhaiterons un joyeux anniversaire à Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Hérault, voilà, les deux personnes qui ne peuvent pas se voir, et le fils à Michael Schumacher, Mick, qui ne va pas tarder à faire son entrée en Formule 1. Aujourd'hui, je disais, chers auditeurs, je reçois Jean-Dominique Bertogne. C'est un plaisir. On va parler du tournage de son premier court-métrage de fiction, L'Autostoppeur. On va parler cinéma. C'est le ciné qui rencontre la radio. Jean-Do, comment ça va ?
Eh ben, ça va super. Bonjour à tous.
Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu de ta jeunesse. Les tout premiers souvenirs Calvez qui te remontent à l'esprit. Voilà, c'est la question un petit peu classique que je pose en entrée d'émission. Quels sont-ils ?
Les premiers souvenirs Calvez, bon, évidemment, l'école Marianne, l'école Ovicogne, la cour de récréation, mais aussi les souvenirs d'été, tu sais, le ronc, voilà. Les journées à la Citadelle, les après-midi à la salle des jeunes, Juan Tuimo, ça. Le cinéma plein air aussi.
Le cinéma plein air à côté de casino,
parce que ma tante Claude, que j'embrasse si elle écoute, travaillait, si tu veux, à la buvette l'été. Donc moi, j'avais entrée gratuite, quoi. Je venais elle. Je venais avec elle à la préparation de la buvette. Et puis je me faisais la soirée.
Tandis que
sur
nous,
les films.
Il y avait les deux premiers qui achetaient le ticket. Ouais. Qui après donnait le ticket à celui qui suivait. Ouais, d'accord. Ça marchait un temps. Après,
c'était ça la technique.
C'était comme ça la technique.
Voilà, donc les étés comme ça, tu vois, entre plages et soirées ciné, ouais, en plein air.
Alors, déjà le ciné, il y a la scolarité. Alors, quel type d'élève t'étais ?
Ouf, là c'est la question.
Alors, est-ce qu'il y a eu un décalage ? C'est-à-dire, généralement, au collège, on est un petit peu plus calme. Après, au lycée,
Ouais. Alors, non, en fait, si tu veux, j'étais un élève très moyen. J'étais un peu sur mes acquis, tu vois.
Parce qu'au collège, il y avait du monde.
Ouais, il y avait du monde.
Connaissais.
Oui, il y avait mon oncle qui était un petit peu là, un peu pour me rappeler à l'ordre quand il fallait. Mais j'étais suffisamment malin pour avoir quand même la sympathie des profs, si tu veux. Plaisanter quand même avec eux. Et bon, on aimait bien rigoler, quoi, surtout.
Voilà. Oui.
Voilà.
Alors, du coup, lycée, là, ça commence à se tendre un petit peu.
Ouais. Internat au Fang.
Ah.
Voilà. Donc, avec tout ce que ça implique, l'internat.
Donc là, c'est parce que tu ne peux pas suivre un cursus au lycée de Balagne. Tu vas au Fang pour suivre des études orientées sur le cinéma.
Exactement. Ouais. Je fais une seconde L, option ciné. Et c'est un cursus que j'ai suivi jusqu'au bac avec Michel Courot, qui était déjà la présidente du festival Artemar à Bastia. Et donc, ouais, j'ai suivi ce cursus-là jusqu'au bac et j'ai passé un bac cinéma. C'est-à-dire, on avait des épreuves écrites, il fallait écrire un scénar. On avait 3-4 pour écrire un scénar et il fallait aussi réaliser un court-métrage.
Donc, du coup, la passion du cinéma, elle est déjà présente très tôt, puisque en seconde, on a quoi, 15-16 ans.
Ouais, même avant, c'était même avant. Hein.
C'était même avant. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, peut-être un film référence, quelque chose qui a déclenché le mouvement ?
Assez difficile à identifier, mais je me fais souvent la réflexion d'où ça vient, parce que j'ai dans ma famille personne qui est dans le cinéma ou de proches. Enfin, c'est pas une vocation, on va dire, familiale ou quelque chose comme ça. Mais je suis né en 91, donc 91, c'est l'explosion de la VHS. Je pense que ça a pas mal joué dans mon développement, tu vois, en tant qu'enfant. C'est-à-dire, je ponçais le magnétoscope et puis après, les DVD. Et en plus, avec l'arrivée des DVD, les bonus, donc je regardais la fabrication, les making-of et tout.
Tu pensais le DVD jusque...
jusqu'au bonus, ouais, parce que j'avais vraiment, encore plus que le film en lui-même, le processus de création me fascinait. Il y avait vraiment une fascination. Mais ça a démarré vraiment, hein, mon envie, on va dire, de cinéma, entre guillemets. À la base, je voulais être animateur chez Disney. Tu vois, voilà. Et puis après, au fil du temps.
Animateur, c'est-à-dire en plutôt.
Je voulais dessiner des dessins animés, tu vois. Je voulais devenir animateur. Donc, ouais, c'était. Et ensuite, on va dire, je me suis intéressé de plus en plus à la caméra, au cinéma live, on dira plus traditionnel. Et donc, je sais pas, je devais avoir 9 ans quand j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un caméscope. Donc, tu vois, ça a commencé quand même assez tôt. Hein,
Et donc, du coup, tu faisais des petites caméras, des petites vidéos avec les copains ou c'était vraiment un truc perso?
Complètement, ouais. C'était complètement ça.
C'est-à-dire que tu emmenais déjà les
Ouais, les copains venaient. Dès qu'on avait des costumes d'Halloween, je me rappelle, c'était à l'époque de Scream. Donc, il y avait les masques, tu sais, de The Ghostface. Donc, on a refait 10 versions de Scream avec mes copains. S'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Non, c'était... Ouais, il y avait vraiment... C'était laboratoire, quoi, tu vois, c'était... Tout le monde participait, hein.
Donc, du coup, oui, parce que si, on se plaint souvent, bon, déjà, alors, il risque d'y avoir, ça y est, au bout de tant d'années, un centre culturel qui va voir le jour.
Génial.
On a connu le cinéma en plein air qui a arrêté. On est quand même dans un endroit où c'est difficile d'avoir accès à certaines choses. Donc, il y avait les vidéoclubs, il y avait les...
Ouais.
Il y avait aussi les sites... Casa, Imule.
Oui, ça c'était après.
Qui nous permettait d'avoir des films. Alors, pas toujours le bon.
Pas toujours le bon. Il y avait un décalage parfois.
Donc, et là, à ce moment-là, donc déjà vers 9-10 ans, c'est déjà arrêté. C'est vraiment ça, mais pas l'acting.
Non, je ne suis pas très très bon comédien. Après, oui, tu sais, après, il y avait les ateliers théâtre avec Orlando. Donc, c'était au collège et tout ça. Donc, on se marrait bien. C'était plus. Pour la rigolade, tu vois, l'acting. Mais non, moi, c'était vraiment le processus de fabrication. Le tournage et même après le montage, ça me plaisait beaucoup. Ouais.
Donc là, on arrive, obtention du bac, on arrive à Corté.
À Corté, ouais.
À la fac.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu y fais?
Alors, qu'est-ce que j'y fais?
Est-ce que tu es présent déjà?
Oui, je suis présent parce que j'aime bien aller à la fac. Je le disais souvent, j'ai l'impression de venir dans mon jardin. Quoi. J'avais un vrai plaisir à aller à la fac. J'ai failli pas y aller d'ailleurs. J'étais à deux doigts d'arrêter mes études, mais mon père m'a un petit peu rappelé à l'ordre. Et il a très bien fait.
Qu'on salue d'ailleurs, parce que si on ne le salue pas,
voilà,
ça va être un scandale. Oui, donc du coup, la fac.
La fac, je fais une licence art et métier du spectacle et de l'audiovisuel. Donc à l'époque, dans ce cursus-là, il y avait, si tu veux, des cours d'analyse de ciné et puis un peu de pratique. Mais c'est vrai que, oui, j'aimais bien ces cours. On faisait un petit peu d'acting aussi. Mais pareil, je le prenais un peu plus à la rigolade parce que je n'étais pas très, très, très bon. Mais c'est vrai que la période de la fac, bon, c'était surtout les copains, les copines, les ruptures, les soirées, le sporting, tu vois. J'avais un petit peu... J'avais un petit peu oublié
les fondamentaux.
Mes rêves de Cinoche, ça devenait un espèce de doux rêve d'enfant, quoi, tu vois. J'allais toujours au ciné et tout, mais bon, j'y croyais pas trop, mais.
Alors, t'y croyais pas trop, pourquoi? Parce que, en se disant, je vais à la fac de Corté, forcément, ça va être embouteillé ou c'est vraiment pour valider une licence, partir sur autre chose?
Non, je ne tirerais pas la pierre à la fac de Corté parce que déjà...
Non, mais ça peut être un sentiment...
Non, c'est je pense à la sortie de l'adolescence et le début un peu voilà, de la liberté, du... Oui, voilà, tu vois, tu traînes avec les copains et puis commence à s'installer, si tu veux, l'imagerie qu'on a de... Aller pour faire des sous, ouvrir un resto, enfin, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Mais ce n'est pas dû à la fac, c'est plus dû à... Voilà, le parcours de vie, quoi. Voilà.
Alors, y a des rencontres à la fac.
Ah oui.
Y a des rencontres à la fac. Est-ce que ça crée une certaine émulation, quand même?
Bien sûr. Eh bien, déjà, même si je ne suis pas parti, je suis resté en Corse, c'est quand même... J'avais déjà retrouvé ça à l'internat. Parce qu'en partant déjà au Fango à Bastia, j'avais rencontré plein d'amis du Fiumorb ou de Castaniche, tu vois. Et ça a continué après à la fac, étant au centre de la Corse, tout le monde allait monter à Corté. Donc forcément, tu crées des liens. Tu crées des liens, notamment, voilà, un truc qui me vient à l'esprit comme ça, Lisandre Vintourigne, qui est toujours un ami, j'étais à l'internat avec lui. C'est lui après qui a repris la maison Mattei, tu vois. Donc forcément, après, on a retravaillé ensemble et puis on a fait des choses intéressantes. Enfin, voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour t'en donner un, oui, des rencontres.
Donc, tu sors de la fac diplômé et arrive le moment où à un moment, il faut manger.
Exactement.
Il faut voler de ses propres ailes. Et là, tu crées ta propre société. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors,
la cité.
J'ai quand même eu une petite période de latence avant.
Ah.
Une petite année de latence. Enfin, de latence. Il fallait travailler et tout. Donc, je suis allé travailler chez mon grand-père au restaurant, à la pizzerie.
Oui, exact.
Je tournais les pizzes. Et.
Est-ce que ça fait piqûre de rappel de dire, j'ai pas envie de faire ça tout le temps?
Alors après, c'est une ambiance familiale. Il y a ma mère, il y a mon grand-père. C'est un restaurant où je suis né dedans, quasiment. Donc, j'étais à la maison, si tu veux. Alors, est-ce que ça fait une petite piqûre de rappel? Tu goûtes encore plus à la liberté parce que l'indépendance financière, prendre l'appartement, s'installer avec ta copine, tu vois. Donc, sur le moment, tu fais pas trop gaffe, on dira. Et puis, il y a eu une petite piqûre de rappel, encore. C'est encore un élément extérieur. C'est ma copine qui m'a dit, on était d'ailleurs en vacances dans les Keys, en Floride. J'étais peinard sur le ponton, je buvais ma bière et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu restes au restaurant? De quoi tu me parles, là, Marie-Lise? Elle m'a dit, non, parce que quand même, tu sais faire quelque chose qui te plaît, tu as un talent, entre guillemets, et pourquoi ne pas l'exploiter? Pourquoi tu le gâches? Et puis bon, ça a fait un petit peu son chemin, tu vois. Et c'est là où,
ça a accéléré vraiment ou parce que tu étais vraiment pas du tout dans la réflexion?
J'étais pas du tout dans la réflexion, ouais. Je sais pas pourquoi.
C'est même en termes de consommation, de films, tout ça, tu avais un peu lâché.
Non, j'avais pas lâché, hein. J'avais toujours un œil bienveillant, sur l'actualité du cinéma et sur les sorties. Mais c'est sûr, je pouvais plus monter au Fogata le soir. Mais ouais, après, c'est revenu comme ça, tu veux. Ça s'est installé et arrive l'été suivant. Et puis, je lance Nobody Agency, tu vois, cette société de production. Et très vite, j'ai des commandes de clubbing, tu sais, de vidéos, de soirées et tout, parce que c'est la course effrénée au contenu, oui, sur les réseaux sociaux. Et donc, comme la vidéo, c'est assez impactant sur ce genre de plateforme, ben, y avait une demande croissante. Et ben, c'est ce qui m'a mis sur les rails, complètement.
Donc là, tu travailles pour plusieurs établissements. Donc on va pas tous les citer, mais bon, quelques-uns de renom. Mmh. Il y a chez Tao, mmh, qui est pas très très loin, hein, si
à côté,
on fait une vingtaine de mètres. Il y a l'Eden, il y en a plusieurs aussi dans le sud. À ce moment-là, on se dit quoi? Je vide ma passion, c'est de l'alimentaire pour plus, ou on est dans la frénésie et on a la tête dans le guidon?
On est dans la frénésie, on a un peu la tête dans le guidon, et surtout ce truc de se dire c'est dingue. Avant c'était on va dire un hobby, je m'amusais avec mes copains, et maintenant je fais des vidéos, je suis payé pour le faire. C'est, il y a presque un décalage, tu vois, tu regardes ça en te disant mais c'est pas possible, ça peut pas durer dans le temps, c'est forcément parce que le travail c'est forcément laborieux, il faut que ce soit dur et tout, et
peut-être saisonnier aussi,
j'avais peur de la saisonnalité aussi, et il s'avère que j'avais tort. Mais ouais, d'abord tu te dis waouh, ça c'est pas possible, ça existe pas, c'est faire ce qu'on aime et en vivre.
Est-ce que c'est de la pression, parce qu'au bout du compte ça arrive assez vite, la création de la société, ouais, et les demandes elles sont assez rapides. Est-ce que ça génère une forme de pression aussi? Parce que là, tu es pris,
oui,
par le temps.
Oui, oui, tu es pris par le temps, et puis tu es pris aussi par le... Je me disais, mes vidéos, même si c'est pour des clients, ce sont mes cartes de visite. Donc, je me mettais systématiquement une pression, si tu veux, sur chaque vidéo. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, quand tu te mets la pression pour des détails vraiment... C'est moi qui m'imposais ça, hein. Au bout d'un moment, tu commences un petit peu à te mettre une forme de pression, et à mon avis, c'est pas toujours très bon.
Alors après, il y a des demandes de sociétés assez importantes pour faire des clips promotionnels. Mmh. Alors, on va parler de Mattei,
Pietre, il y en avait plusieurs.
Ensuite, il y a des clips institutionnels. Est-ce qu'à un moment donné, Alors ça fonctionne, hein. Du coup, je pense qu'il doit avoir des rentrées. Je ne veux pas rentrer dans le secret des dieux, pas générer de problèmes. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, je vais m'enferrer là-dedans. Je m'enferrais là-dedans et je n'avais pas arrivé à en sortir, ou est-ce que finalement tu étais dans un petit confort et ça te convenait ?
Oui, voilà, au début tu es dans un confort. Tu te dis, voilà, maintenant ce genre de produit, je sais les faire. Tu vois, c'est
en roue libre. Qui rentre,
exactement.
Voilà.
Tu vois, commence à s'installer une forme de routine. Et à un moment donné, tu as envie de plus.
Et donc, du coup, arrive le fameux projet. Corsi Americani. Et comment ça te vient ? C'est justement le fait de se dire je m'enferme dans un truc, il va falloir que je porte un projet. Comment il arrive déjà ce projet ?
Parce déjà,
que bon, c'est pas très courant.
Une envie de, voilà, comme tu disais, de projets plus personnels qui viennent de ma démarche, qui ne seraient pas une commande. Et puis moi on aime bien bouger avec ma copine, on voyage pas mal. Et là on était en Californie. On faisait un road trip, on a fait une escale à Los Angeles, on est allé manger chez Cédric et Olympe. À l'époque, il y avait le Napoléon et Joséphine, qui était un endroit sur Melrose Avenue totalement hors du temps. Tu passais la porte, tu étais sur Melrose Avenue et là, tu rentrais à coucou, quoi. Tu vois, tu revenais à Calvi d'un coup, c'était incroyable.
C'est un arrêt prévu ou...
C'était un arrêt prévu. Quand on a du temps, on s'arrêtera, tu vois. Et on est allé, le premier soir, on est allé et on avait l'hôtel pas très loin en plus. Et là, j'avais mes 1000 questions à leur poser sur leur exil, mais nous, on avait un voyage à terminer, tu vois. Et donc, cette année, je dis putain, là, on a le droit de dire des gros mots, pardon, j'ai dit putain.
Oui,
hein.
Oui, oui, oui.
tant mieux.
Libre antenne, bah, c'est encore trop tard, mais ça va.
Et là, je me suis dit, bon, il y a l'exil et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours. Tu sais, c'était des questions que je me posais moi-même.
Toi, t'as pas cédé en plus.
J'ai pas cédé, ouais. J'étais à deux doigts. Hein. J'étais à deux doigts. Mais
c'est une question qui m'a. Au moment où tu as eu le bac, tu t'es dit, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller voir ailleurs ?
Toujours, ouais, toujours. Même encore aujourd'hui. D'accord. Même encore aujourd'hui, ouais.
Donc, du coup, tu rentres, ça mûrit. Tu décides de faire ce projet. Comment on contacte des Corses qui habitent aux États-Unis ? C'est le bouche à oreille, c'est des gens qui
se proposent. C'est le bouche à oreille, c'est des enquêtes, c'est des ajouts d'amis sur les réseaux sociaux. C'est activer un peu son réseau. Et puis il y avait plusieurs profils, donc j'ai écrit un truc beaucoup plus long avec beaucoup plus de personnages. Et ensuite j'ai trouvé un producteur, Stéphane Mattei, que j'embrasse d'ailleurs. Et donc là, à un moment donné, on n'avait qu'un film de 52 minutes, donc il fallait faire des choix. Donc on a gardé voilà, des personnages très différents les uns des autres, justement pour explorer, diversité. Si tu veux, vraiment, qui étaient dans des états totalement différents et voir un petit peu quel était un peu leur point commun, ces gens-là, même si c'était très différent et s'ils avaient des domaines absolument à l'opposé, tous.
Mais là, tu es bridé parce qu'en fait, bon, c'est une commande.
Non, c'est pas une commande.
C'est moi qui l'ai écrit.
Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. J'en avais plein.
Financièrement, et... comment on s'en sort ? Parce qu'il y a les allers-retours, il y a quand même toute une machine derrière.
Bien sûr. Alors, je me suis fait produire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas ma société qui a produit le film. C'est-à-dire que c'est un producteur qui a regardé le scénar, Stéphane, donc, qui a porté le projet aux chaînes et qui a trouvé les financements. Donc, les financements, c'est le CNC, le Centre National de la Cinématographie, la région, c'est... les chaînes, enfin, c'est son boulot quoi, de réunir le budget et que tout le monde soit payé, les techniciens, donc moi aussi, tu vois. Donc au final.
Là, c'est ton premier projet. Comment on vient à faire un business plan, à dire voilà, moi je vais te présenter quelque chose, il me faut tant.
Et ça, c'est pas mon problème en fait. Ça, c'est vraiment au producteur de se débrouiller, de dire ok, voilà, tu dois tourner ça, ça, ça et ça. Donc nous, ça va nous coûter tant, donc il faut qu'on trouve tant pour rentrer dans nos frais, tu vois.
Tu avais une inquiétude ?
De non.
Te dire, on va me donner un petit peu et je vais pas pouvoir sortir ce que je veux.
Non, parce que j'ai l'habitude, si tu veux, d'être en équipe très très réduite sur les projets pour les clients, parce que forcément on n'a pas des 1000 et des 100 non plus, tu vois. Et donc j'étais même chaud pour le faire limite seul. Et c'était même la volonté de démontrer que même en étant très limité, on pouvait faire quelque chose de qualité. Voilà.
Donc là, du coup, le projet sort, il y a un certain engouement.
C'est vrai.
Du coup, tout le monde en parle, ça sort. Comment on vit la sortie du bébé ? C'est un projet qui dure combien de temps, ça ?
Alors ça, c'est un projet qui a l'écriture a commencé on va dire, entre le moment de l'écriture et la sortie à la télé ou les avant-premières, c'est passé un an et demi.
Quand on est dans le projet, qu'on tourne, qu'on se déplace, ensuite qu'on monte, on est forcément dedans. Quand le bébé il sort et qu'on commence à se confronter un petit peu aux avis, comment il est l'état d'esprit ?
Alors l'état d'esprit, ben on fait pas trop le malin, voilà, parce que ouais c'est
parce que là t'es jeune, tu as quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là je crois que j'ai 27 ans. Voilà, j'ai 27 ans quand je suis au Fogat et puis en plus quand c'était proche c'est encore pire.
Ouais.
Voilà, tu vois, si c'était un public totalement neutre et tout, je serais plus détendu, mais là il y avait des proches, il y avait Julie Franceschini qui est dans le film, qui est en Floride, et est rentrée pour fêter ses 30 ans à Isle aux Rousses, donc il y avait toute sa famille, et j'avais pas envie de les décevoir. Enfin, et pardon pour la métaphore, mais quand il a fallu prendre le micro, se présenter et montrer le film, j'avais l'impression de montrer mon zizi à tout le monde, quoi. Tu vois,
ouais.
Il y avait vraiment un truc de pudeur. Et puis je m'étais mis tellement de pression. Si tu veux, je voulais tellement bien faire, démontrer, comme je te disais, que même avec peu de moyens, on pouvait faire des choses de qualité. Enfin, je me suis mis la pression et j'aurais aimé profiter encore plus. Tu vois, j'ai été trop stressé, quoi.
Et finalement, les retours, ils sont comment ? Est-ce que tu as des... Bon, moi, je le sais, c'est plus ou moins bienveillant. Il y a des bons retours puisque ça a été dit. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, ouais, bon, est-ce que tu t'es confronté à des avis un petit peu des gens qui t'ont descendu?
Non, pas descendu, peut-être des remarques sur certaines choses, ça bien sûr, et puis je les prends volontiers, les remarques, surtout quand elles font sens. Mais j'ai quand même eu des retours très bienveillants, et même sur des projections où j'étais pas, on me faisait remonter les retours. À Carhaix, j'avais pas pu y aller, et on m'a fait remonter les retours, et ils étaient quand même bienveillants. Et moi, j'avais peur que ça parle un peu trop, si tu veux, à ma génération. Et ce qui avait été bien de voir avec le public, c'est que même, on va dire, les publics plus seniors, on dira, même eux ont accroché malgré le rythme un peu soutenu, malgré des effets de montage. Et c'est ce qu'ils ont aimé d'ailleurs, tu vois.
Alors, là, tu pars sur un projet, le projet le plus récent, c'est-à-dire ton premier court-métrage de fiction. On est sur autre chose que le documentaire. Le documentaire, c'était pour t'emmener à ça, pour faire tes preuves, ou est-ce qu'au bout du compte, tu n'es pas bridé par le format, que ce soit documentaire, fiction, court-métrage, long-métrage?
Très bonne question.
C'est comme ça que ça vient.
Alors, le documentaire, pour moi, c'était un petit peu une en termes de légitimité, entre guillemets, ou quoi que ce soit, c'était un petit peu la porte d'entrée, on va dire.
Mmh.
Parce que je voulais vraiment faire un projet, voilà, produit avec une chaîne, donc validé par des diffuseurs. Et c'est vrai, quand tu viens du clip ou de l'institutionnel, ces choses comme ça, j'avais l'impression que ce serait plus simple à avoir le feu vert, on dira. Donc ouais, j'ai foncé sur le documentaire, et pensant que j'avais pas encore les épaules suffisamment larges pour m'attaquer à la fiction. Tu vois, je me disais non, j'y arriverai pas encore. Je sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est l'appréhension que j'en avais, quoi.
C'est pour ça que sur l'autostoppeur, tu es en totale autoproduction.
Totale autoproduction. Alors pourquoi ? Alors, en fait, si tu veux, à la base, j'ai un autre projet de court-métrage. Là, cette fois, avec diffuseur, chaîne, etc. Mais que les gens comprennent bien, c'est un long processus pour boucler tous les financements, parce qu'il y a plusieurs commissions dans plusieurs institutions qui sont séparés de plusieurs mois, et puis des fois il peut y avoir des modifications. Enfin, c'est un long processus. Normalement, on met 3 ans pour produire.
Et puis au milieu, il y a eu la Covid.
Il y a eu la Covid. Bon, moi, ça m'a pas spécialement freiné. Ça m'a permis d'ailleurs de reprendre le scénar de ce court-métrage-là, qui sera le prochain que je vais tourner. Et j'avais trop envie de tourner, quoi. Et on avait eu un projet presque de fiction avec des copains au mois de décembre pour un clip. Et on s'est tellement régalé au final que j'ai dit à mon ami Adrien Georges, qui était directeur de production sur ce projet-là, tu t'occupes de la prod de mon court-métrage, j'en ai un que j'ai écrit au mois d'octobre là. Le scénario, franchement, il est chouette, et je pense qu'il va pas coûter des milliers et des cents non plus. Avec pas grand-chose, je suis sûr qu'on peut bricoler quelque chose de sympa. Il m'a dit allez, viens, feu, on se dit mi-mars au plus tard, il faut qu'on ait tourné le film. Et on est allé comme des fous, tu vois, comme ça, de manière totalement inconsciente. On a retrouvé l'équipe qu'on avait au mois de décembre, et plus les comédiens.
En plus les comédiens, oui, parce que là, tu as des comédiens, entre guillemets, de référence au niveau insulaire. Comment on arrive à leur faire accepter ?
On leur envoie un scénario.
Je suppose que ce n'est pas financièrement, parce que vous étiez un peu charrette.
Carrément charrette. Bah, je vais te dire, normalement, un budget moyen d'un court-métrage en France, c'est 100 000 euros. Voilà. Et nous, on avait 6 000 euros.
Magnifique.
Voilà, tu vois, ça te donne un petit peu le... Donc, on était charrette, comme tu dis. Mais alors, c'est Adrien qui il m'a dit, voilà, qui tu voudrais. Donc, j'ai parlé de Didier, j'ai parlé de Gray. Il m'a dit, bon, laisse-moi faire, fais ton découpage, toi, fais ton storyboard, prépare ton tournage parce que ça arrive, là, c'est demain. Et moi, je vais essayer de les convaincre. Donc, il a été malin, il a trouvé les contacts, il leur a envoyé le scénario. Ils ont eu le scénar. Ils ont beaucoup accroché. Et une fois qu'ils avaient aimé le scénar, Adrien leur a dit, bon, par contre, les gars, voilà, ça sera temps par jour maxi parce qu'on est là, quoi. Et donc, du coup, après, ils étaient pris par le scénario, par l'énergie positive qu'il y avait autour du projet, parce qu'on l'a fait un peu avec le cœur, tu vois.
Et comment tu rognes, parce que passer de 100 000 à 6 000, comment on rogne ? C'est-à-dire que tu es partout, en fait.
Déjà, il n'y a pas de location matérielle, c'est que du matériel qui appartient à ma société, déjà, pour commencer. Donc, des fois, on est un peu limité, notamment sur la lumière et tout. Laurent, mon chef opérateur, devenait fou, des fois, parce que pour éclairer, il avait trois fois rien, mais il faisait avec ce qu'il pouvait, le pauvre. Mais c'est ça, c'est équipe très réduite, donc ça veut dire que c'est juste le réal, donc moi, le chef opérateur, deux assistants, un ingé son, une maquilleuse, quelqu'un à la production, des gens à la régie, donc d'ailleurs ma sœur, mon père, et des proches qui passent des fois, donner un coup de main, quoi, des amis, la belle famille.
Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, je le fais, c'est peut-être un peu précipité, il y a des moments où tu dis, voilà, attends, c'est précipité, je vais pas avoir le rendu que je veux, on part un peu en galère.
Complètement, mais ça venait vraiment en opposition avec l'état d'esprit que j'avais avant, qui était de me mettre beaucoup de stress sur le résultat. Là, je voulais tourner, j'avais envie de tourner, et puis je savais que j'allais apprendre toutes les heures, j'allais apprendre quelque chose, tu vois, parce que forcément, un tournage, tous les jours, on ouvre un sac d'emmerde, tu vois, qu'il faut démêler, mais tu apprends tellement. Et là, je me suis dit, écoute, là, tu as des comédiens, là, tu as les décors que tu voulais, plus ou moins les accessoires que tu voulais, malgré le budget. Tu as une petite équipe qui est là pour porter le projet avec toi. Je me suis tout simplement dit, je vais profiter de chaque minute. Et ce que je n'avais pas fait sur le documentaire. Sur le documentaire, je m'étais mis beaucoup de pression. Au final, je me suis fait trois états aux États-Unis plus la Corse. Et oui, il y a des moments où j'ai profité, mais tu vois, avec le recul, je me dis, j'aurais dû profiter encore plus, quoi. C'est pas tous les jours, un tournage. Non. Et donc là, j'ai vraiment voulu profiter, et ça s'est ressenti. Et il y a eu une énergie tellement positive sur le tournage qu'au final, on a passé une semaine, malgré la fatigue, malgré les galères, mais de pur bonheur, quoi.
Alors, on va aborder, parce que là, tu es en pleine phase de montage.
Ça y est, ouais.
En espérant pouvoir le présenter pour le Festival de l'âme.
Peut-être.
Donc là, c'est sur tes épaules. Je mets un coup de pression. parce que c'est bien beau de venir à la radio, perdre un peu de temps. Bon, c'est du temps perdu pour le montage. On va aborder, dans l'émission, il y a toujours des questions qui fâchent.
C'est pas vrai.
Ouais. Donc, petite musique.
Ah, voilà. En plus, on est sur
exactement.
Morricone.
Alors, est-ce que on en a parlé de l'exil, est-ce que rester en Corse c'est un frein ou tu es plutôt pour l'instant dans un acte militant ? Mais tu m'as dit que tu réfléchissais quand même un petit peu à partir, ça restait quand même dans un coin de la tête.
Oui, bah c'est plus des rêves, des doux rêves de voyage, tu vois. Mais je dois reconnaître que j'ai toujours entendu ça, il faut partir, mon coco, et puis pour toi, le cinéma, il faut aller à Paris. Et puis à un moment donné, j'y croyais, mais on a tellement de décors, tellement différents, tu vois, à proximité. Je lisais un truc sur Kubrick. Il habitait en Angleterre. Il refusait de tourner au-delà de 20 km autour de sa maison. Donc, voilà, même Full Metal Jacket, en fait, c'est à côté de chez lui, dans des usines désaffectées, quoi.
Énorme.
Donc, avec le cinéma, on peut tout faire. Et on a une lumière naturelle tellement extraordinaire ici et des décors tellement variés encore, parce que moi, le cinéma, ici, j'y crois à 200%.
Donc, et puis il y a des jeunes qui ont du potentiel.
Complètement. Tu as vu la génération qui arrive ? Non, franchement, j'y crois, moi.
Oui, parce que je me disais, il y a les Oscars qui viennent, puisqu'ils viennent d'annoncer les nominations, en tout cas. Il y a eu la cérémonie de César aussi. Alors c'est mon avis personnel. Hein.
J'ai pas regardé.
Qu'elle a été. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, est-ce que des fois ça te traverse d'avoir peut-être une reconnaissance alors nationale, internationale. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ah je divague un peu, ah je me vois bien avec un César.
Avec un César. Entre le court-métrage autoproduit et les Oscars ou les Césars ou le tapis rouge à Cannes, on en est encore très 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 loin. Après,
pourtant, tu as eu un surnom sur le tournage de la part des acteurs.
Ah non. C'est vrai, hein, tu es au courant de ça?
Je sais pas, je reçois des textos d'une personne, un certain DB.
Quel enfoiré.
Et on me dit il avait un surnom sur le tournage.
Ouais, c'est vrai, j'avais un surnom.
Alors c'était
Jean-Do Tarantogne.
Donc, non, ça ne traverse pas l'esprit, c'est un truc qui est assez flou.
C'est un petit peu d'ego
quand même.
Oui, un petit peu. Non, et puis, je sais pas, c'est comme demain un chanteur qui rêve peut-être un jour de faire un Zénith. Tu sais, il y a des images comme ça, mais c'est vraiment juste un doux rêve. Quoi. Voilà,
Ou c'est juste de voir en haut d'un pâté, by J.D. Bertogne.
Mais c'est un peu de l'ego, comme tu dis. Il faut essayer de faire attraction de ça.
Il y a l'ego trip qui rentre. C'est quand même un métier où on propose. Là, tu as autofinancé ton premier court-métrage. Le second sera sans doute pareil. Non,
il sera produit. Je vais le produire, mais avec des moyens normaux, on dirait.
Entre guillemets, est-ce que le clubbing, les clips institutionnels, ça va pas être de l'alimentaire? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas être obligé de refuser, voire même d'abandonner définitivement, créer une sous-société, mettre quelqu'un à la place?
J'ai réfléchi déjà, puisque c'était un tel bonheur de tourner et là de revenir. Parce que j'ai des commandes
au tout venant,
en cours,
au tout venant.
Sur mes commandes, c'est vrai que.
Très belle vidéo de mariage, j'ai pu passer ça.
Ah récemment. Et non, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir soit faire des choix, soit se mettre des impératifs, c'est-à-dire, je ne fais que du cinéma ou. Je sais pas, tu vois, j'ai encore le cul entre deux chaises, mais j'aimerais vraiment continuer dans la réalisation de fiction parce que j'étais vraiment très épanoui.
Alors, on parlait de l'exil. Est-ce que tu as déjà été confronté, alors peut-être par des acteurs, des gens du cinéma, qui est un monde quand même assez fermé, entre guillemets, quand on connaît pas comme ça, c'est difficile de s'insérer. Confronté un petit peu à la condescendance, le petit Corse qui vient sur le marché, pas encore eu l'occasion.
Je vais peut-être l'expérimenter bientôt, mais pour l'instant je l'ai pas encore ressenti. Donc bon, je me fais pas d'a priori et puis après.
Non, sans a priori. On sait que c'est un phénomène existant.
C'est un milieu assez restreint, assez fermé, assez protégé. Parce qu'il y a de la concurrence. Alors. Moi, pour l'instant, c'est du court-métrage, donc je ne suis pas du tout dans une optique d'exploitation et de on ne cherche pas à faire du profit avec un court-métrage, tu vois. Mais si Dieu le veut un jour, si je rentre dans le long-métrage, donc c'est-à-dire avec une exploitation commerciale, il y aura forcément, à mon avis, de la concurrence, et c'est normal, quelque part.
Mais ça va générer de la critique aussi.
Ah, ça génère tout, génère de la critique, de toute façon. Donc la critique...
T'es assez armé parce que moi, des fois, je regarde souvent des interviews de gens qui sont confirmés dans le métier, que ce soit des acteurs, que ce soit des réalisateurs et tout. Et des fois, c'est assez violent. Tu te sens armé d'être confronté à des avis tranchés. Ouais, c'est de la merde.
Non. Mais bon.
Parce qu'après, on fait comment? On se met en fœtus dans le lit et on ne sort pas pendant
Soit tu, à mon avis, tu les prends si tu veux les prendre, ou alors tu te coupes des réseaux. Je sais pas, mais non, la critique, elle viendra, évidemment. Il faudra la prendre. Je veux dire, c'est un fait. Après, j'avais entendu une critique du Masque de la Plume de Sergio Leone à l'époque quand il a sorti Il était une fois dans l'Ouest. Ils ont été, mais insultants, quoi. Genre, ils ont dit ce Leone, c'est un salopard. Enfin, c'était vraiment très, très virulent. Et je me dis, c'est quand même Il était une fois dans l'Ouest. Donc, tu vois, relativises un petit peu en te prenant des exemples comme ça, mais. Quand tu fais quelque chose, quand tu proposes quelque chose, c'est un objet culturel, forcément, il peut être critiqué. Il est sûrement critiquable, d'ailleurs, rien n'est parfait. Donc,
Parce que tu bénéficies peut-être à l'inverse de la bienveillance parce que tu es un enfant d'ici, local.
Et puis en plus, personne ne m'attend. Je veux dire, il n'y a pas d'attente derrière mes projets puisque je débute. peut-être après, plus tard, s'il vient, peut-être le succès, on ne sait pas. Peut-être que là, il y aura de l'attente, tu vois. Donc là, peut-être que la pression sera peut-être supérieure.
La mécanique se mettra en marche. Alors, on finit toujours par des questions flash. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle ?
Une qualité, bon, j'en ai pas des masses, mais je pense que ce serait s'adapter, tu vois, l'adaptabilité.
Voilà, le caméléon.
Ouais, voilà, s'adapter.
Un défaut ?
J'en ai trop. La procrastination et voilà, je vais t'en dire deux parce qu'il y en a tellement. Et peut-être être trop dans ma bulle dans le travail, tu vois, ça peut poser problème pour mon entourage. Ouais.
Si t'étais un animal.
J'adore les animaux, donc c'est dur de choisir. Mais je dirais un félin, peut-être un chat ou une panthère.
Est-ce que tu as un héros de fiction qui te suit depuis longtemps et un dans la vie réelle ?
Alors, de fiction, Marty McFly.
Ah, ouais. Retour au futur.
Retour au futur, ouais. Et dans la vie réelle, ce serait forcément des réalisateurs, peut-être Nolan ou Scorsese. Ouais.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme ?
Le cynisme, la violence, l'ambition aussi, beaucoup trop de trucs.
La chose dont tu es le plus fier ?
La chose dont je suis le plus fier ? Ça, c'est dur. De faire.
Est-ce qu'il y a une phobie en particulier ?
Le vide.
Ah, bienvenue au club. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as pleuré ? Alors, ne me dis pas, c'est quand j'ai vu ton nom s'afficher sur mon téléphone, je le prendrais très mal.
N'importe quoi. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, attends, je vais bien réfléchir, mais je suis certain, c'est quand j'ai vu...
Moi, je suis un bonhomme.
Non, c'était au mois de décembre quand j'ai vu Soul, le dernier Pixar, tu sais ? Qui ouais. Est sorti sur Disney+.
J'ai pas vu.
Eh ben, je te le conseille. Hein.
Ouais.
J'ai pleuré.
Ah ben.
Officiellement. Hein. Comme un bébé. Hein.
Ah, moi, c'est les rediffusions d'E.T. moi, à chaque fois.
Ah, ben ouais.
Quand tu dis, je serai toujours là. c'est parti. Si tu pouvais revenir en arrière, c'est la dernière question, et dire quelque chose à l'enfant qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais... Je lui dirais de pas perdre de temps à chercher une légitimité, mais de faire, même si c'est imparfait, de faire. Ouais.
Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire, des remerciements ? On va faire un petit peu comme au César, je remercie l'ensemble.
Non, alors, les remerciements, c'est trop délicat parce qu'à chaque fois, tu oublies forcément quelqu'un, mais toutes les personnes, que ce soit ma famille, mes proches, ma belle famille, toutes les personnes, les techniciens, les comédiens, de près comme de loin, qui ont contribué à... un petit téléphone, ça c'est Anto.
Merci,
qui est dans
merci
le
Anto. Merci, hein. Anto. Ah, il nous a salopé l'émission. En fin d'émission, il nous a salopé.
T'as vu, j'avais dit, moi je mets ouais. En mode avion. Hein. Et non, j'aimerais vraiment les remercier du fond du cœur parce que ça a été un moment presque familial, un pur bonheur de partage, de rencontre. Et que ce soit la technique comme Anto, que ce soit à la technique comme à la logistique ou à la production. Les planètes se sont un peu alignées, tu vois. Et
le prochain tournage, on n'en a pas trop parlé, il va avoir lieu encore une fois en Balagne.
Oui, oui.
C'est sûr. Encore une fois en Balagne. Donc, s'il y a des gens qui veulent se porter sur le casting, voilà. Faire des apparitions, tout ça, c'est maintenant qu'il faut demander.
Non, on va attendre un petit peu parce que ce sera sûrement en l'hiver prochain. Voilà, on va dire dans un an à peu près. Donc, on communiquera là-dessus, hein, de toute façon. Donc,
Il y aura besoin de monde ?
Deux ?
Il y aura besoin de monde ?
Ouais, il y aura besoin de monde quand même.
Ah, d'accord.
Un petit peu de monde, hein.
Donc, Jean-Do, je te remercie.
Merci à toi.
Nous, comme d'habitude, ben, c'est rendez-vous lundi prochain, 10h30. Je vous souhaite une agréable journée sous le soleil calvé. Et je vous dis à bientôt.